CFM Villefranche, le mag.
Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Il y a une petite carte de printemps dans les studios avec Didier Vallet pour cette édition du magazine d'actualité. Rendez-vous bimensuel des hommes des plantes et de la biodynamie. Didier Vallet, grand spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, sommité fleurie de la biodynamie. Il se dit, Didier, que vous chuchotez à l'oreille des pistils. Là, on peut le dire, c'est d'actualité avec le printemps. Bonjour Didier.
Bonjour David.
On explore. Alors, on a totalement... Bon, il y a eu les élections, mais c'est vrai que la dernière, je l'ai bien en mémoire, dernière intervention, on n'a pas du tout parlé des rubiacées, la famille qu'on étudie, dernière famille de plantes étudiée dans votre rendez-vous. Un rendez-vous qui se dessine en deux temps. Une première partie qui est un billet billet du sensible, pas un billet d'humeur, billet du sensible en fonction de ce qui se passe. Le printemps, là, on est en plein dedans. Peut-être que ça sera l'objet de votre intervention pour cette première partie. Et puis tout à l'heure, on a vu le gaillégratron, la spérule dans la famille des rubiacées. Et peut-être qu'aujourd'hui, on va s'avancer vers une autre plante à découvrir. La famille des rubiacées, en tout cas.
Totalement, oui. Oui, et ben, c'est vrai que le printemps, on le voit, parce que depuis déjà quelques temps, les jours rallongent énormément. Donc,
Là, on a basculé même depuis 3 semaines. Moi, je trouve que le printemps est là depuis 3 semaines.
Mais oui, et puis, tout. Les arbres se sont mis à fleurir depuis déjà un petit bout de temps. Les poiriers, les pruniers, pas les cerisiers, bien sûr, mais les abricotiers, les pêchers pour certaines variétés. Donc, là, ça sent le printemps et ça fait du bien parce que...
Ah oui, moi, je ne suis pas fan de cette période parce que ça veut dire que le travail se prépare.
Oui,
tout explose et c'est bien quand c'est un peu végétatif.
J'en parlais avec un ami maraîcher là, qui me disait surtout qu'on a eu une période, là, janvier, février, très, très pluvieuse quand même. Ouais. Bon, et il fallait de l'eau, c'est sûr, mais... quand elle tombe beaucoup à la fois, alors bon, on est dans des régions où on n'a pas des inondations catastrophiques comme dans certaines régions. Alors ça inonde un peu, mais ça fait pas des catastrophes humanitaires comme on peut avoir, comme il y a eu en Espagne, comme il peut y avoir dans l'Hérault, dans le Gard. Mais ça fait beaucoup et l'eau n'arrive plus à pénétrer en fait. Et encore pendant pas mal de temps, pendant 3 semaines, peut-être un mois après cette période de pluie, on voyait encore des flaques d'eau dans les champs. Alors, ça, c'est pas complètement naturel aussi, c'est parce que ce sont des champs très tassés, où la terre est très tassée, et donc l'eau n'arrive plus à pénétrer. Donc, on n'est pas dans des résurgences d'eau, on est dans l'eau qui n'arrive pas à rentrer. Mais les rivières qui ont débordé, tout ça, ça a pu faire un peu de dégâts. Et le printemps, en fait, quand on travaille dans la nature, l'hiver, c'est toujours une période un peu difficile à... Pour le moral, pour... et puis, dès que...
Le printemps, on le souhaite, mais on en a peur quand il arrive, parce que tout décolle. Hein.
au printemps encore, on a du travail quand on travaille dans la nature, on a du travail, mais c'est pas encore là cette période là de fin mars où on a encore beaucoup de travail parce que l'herbe commence à pousser, c'est sûr.
Je dis ça parce que je fais une culture de ronces et c'est vrai, c'est pas pareil.
Ah, les ronces, les anciens disaient toujours que fallait les couper à la vieille lune d'août pour pas qu'elle repousse. Et c'est vrai que je vois le vieux paysan voisin chez nous, là, dans le temps, au mois d'août, il allait couper, il prenait sa faucille et il allait couper les ronces, surtout qu'au mois d'août, les moissons étaient terminées, les foins étaient terminés, il n'y avait plus grand-chose à faire. Et maintenant, les ronces, alors qu'on a du matériel pour les broyer et tout, mais elles ne sont même pas broyées souvent et en en tout cas à n'importe quel moment. Donc elles repoussent de plus belle parce qu'au contraire, on les...
Elles se démultiplient, c'est
on
ça
on les stimule plutôt que, qu'autre chose. Et donc... Donc voilà. Alors voilà. Bon, ce printemps, ben moi, ça me fait plaisir. Ça, bon, à la sortie de l'hiver, bon, on est un peu rouillé. Les premiers gestes dans les champs, au jardin, sont un peu compliqués. On a un peu des courbatures le lendemain matin. Mais bon, il y a les chants des oiseaux aussi. Et les oiseaux se sont mis à chanter. Là, c'est tout un environnement. Je me demande toujours comment font les gens qui habitent dans des grandes villes. Encore les oiseaux, on les a dans les parcs. Il y a des arbres, mais pour ne pas avoir ce printemps qui nous stimule, en fait, comme on peut l'avoir dans nos régions où on est vraiment dedans.
Non, là, c'est la fanfare dans la forêt. Ouais, vraiment, la nature se réveille. Est-ce que j'avais vrai dans mon annonce, on prolonge la famille des rubiacées aujourd'hui,
Didier? Oui, totalement.
Le rubiacé, dans un instant, à la découverte de cette famille avec Didier Vallet, grand spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, sommité fleuri de la biodynamie. Didier Vallet, la suite après la musique. Rejoindre le rendez-vous du lundi des hommes des plantes et de la biodynamie avec Didier Vallet, grand spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, sommité fleuri de la biodynamie. On prolonge notre étude de cette mystérieuse famille des rubiacées. C'est vrai que moi j'étais un peu perdu sur le gaillet gratron. J'ai vu la photo, je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, je la connais cette plante.
Ah bah
mais
oui,
le gaillet gratron, je n'aurais pas donné, j'aurais dit la plante à bouloche, moi plus. Plus simplement. simplement, la plante à bouloche. Et la spérule également, une autre plante que vous nous aviez, dont vous nous aviez parlé dans cette famille.
Donc voilà, bon, la spérule très bien aussi pour dormir, très apaisante, et dont on fait un vin, une macération dans du vin blanc avec un peu de gnôle aussi quand même, et du sucre pour monter un peu le degré en alcool. Parce que ça se conserve mieux aussi. Parce que si on fait macérer une plante dans du vin, le vin va se transformer en vinaigre. Donc on est obligé d'arrêter une fermentation possible, une oxydation possible du vin, en montant le degré alcoolique et en mettant du sucre aussi. Ce sont des méthodes de conservation, comme on met du sucre dans des fruits pour en faire des confitures qui se conservent. Si on fait des fruits comme ça, qu'on les fait cuire, stériliser encore, ils vont peut-être... ça fait des compotes, on peut les conserver, mais pas si longtemps, en fait. Donc, le sucre, il n'est pas forcément bon pour la santé. Il ne faut pas prendre du sucre blanc. C'est mieux de prendre du sucre non raffiné. Déjà, c'est meilleur pour la santé. Et puis, ne pas trop en mettre aussi. Quand on voit les anciennes recettes qu'on trouve de confiture à 1 kg de sucre par kilo de fruits, alors qu'on passe très bien avec 400 grammes de sucre. Et dans les recettes de liqueurs, c'est la même chose. On peut diminuer un peu le sucre.
Alors, il y a des plantes qui ont ce pouvoir sucrant aussi, je pense, à la stevia. Alors, il y a un
petit
goût.
Oui, alors, mais... je ne pense pas...
On ne pourrait pas en mettre dans la confiture.
Elles contiennent pas vraiment du sucre. Elles ont un goût sucré, mais je ne pense pas qu'elles puissent remplacer le sucre. Mais bon, il faudrait faire des essais, mais je ne pense pas.
Dans une tisane, peut-être plus facilement.
Voilà, dans une tisane, peut-être, là, dans ce cas-là. Donc, pour en revenir à nos rubiacées, quand même... Je vais peut-être réussir à la finir, mais j'ai fait tellement de digressions au cours de cette famille que...
Il y avait le début d'année, puis il y avait vos soirées, il faut parler de vos soirées, Didier, de vos rencontres à MAP, à Corne.
Voilà. et donc, c'est une famille... très peu de gens, sûrement, quand j'ai parlé des labiers, des choses comme ça, les gens avaient quand même des noms un peu connus, peut-être pas les composés.
Non, les composés, non, vraiment non.
Mais les plantes sont connues. Quand on arrive dans la famille des rubiacées, là, je suis en train de parler de plantes qui ne sont pas rares, qu'on voit partout, mais que les gens ne connaissent pas forcément.
C'est vrai. Oui, oui.
Que soit parce qu'elles ne poussent pas en grosse quantité, soit parce qu'elles n'attirent pas l'œil.
Son utilité, c'est moins, la menthe, les orties, d'autres plantes dont vous avez parlé.
Les orties, on les connaît parce que ça pique.
Oui, aussi. Non, mais c'est ça aussi. Là,
alors, le gaillet gratron, pour les gens qui se baladent à la campagne, ils le connaissent parce que ça s'accroche partout, c'est embêtant. Mais ils ne connaissent pas forcément son nom, quelle famille ça fait, ça a des propriétés médicinales aussi. Alors, après, la spérule odorante, elle est un peu particulière parce qu'elle pousse dans des endroits, on avait dit, terre acide, sous des hêtres. On ne va pas la trouver sur le causse. C'est aussi une plante qui est particulière dans son environnement et qui est assez discrète. On peut marcher dans un tapis de la spérule et on ne va pas dire, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Sauf si on est un peu...
Curieux
et féru des plantes et regarder toutes les plantes qu'on foule à nos pieds. Donc voilà. Alors après, il y a d'autres plantes de cette famille. Le gaillet vrai, qu'on appelle le caillelet aussi, parce que dans le temps, on le mettait dans le lait pour le faire cailler. Alors, je ne sais pas exactement Parce que du lait, ça caille aussi, même si on ne met pas de présure. Donc, la présure, ça permet d'avoir un caillé d'une certaine qualité, disons, et que ça aille un peu plus vite que de laisser du lait comme ça cailler tout seul. Alors, je ne sais pas si le gaillet, donc ce caillelet, on le mettait dans le lait pour le faire cailler ou si c'était pour lui donner un certain goût aussi. Donc c'est une plante, alors comme toutes les rubiacées, comme le gratron, comme la spirule, contrairement au gratron qui grimpe, le gaillet c'est comme la spirule, ça reste assez bas, un peu plus haut, et ça fait des fleurs, des petites fleurs jaunes, le gaillet vrai. Qui sent, alors quand on passe à côté, quand il y a du soleil et qu'on passe à côté, ça sent le miel. Il y a vraiment une odeur de miel, et pas dégagée par le feuillage, mais dégagée par les fleurs. Parce que le feuillage, il n'a pas d'odeur, on peut l'écraser. Et vraiment cette odeur de miel, là, douceâtre, comme l'odeur qu'il y a dans une ruche. Moi, je remarque le gaillet en passant près à son odeur. Premièrement, c'est ça, tout de suite, ah tiens, je cherche et je le trouve. Alors, ça pousse, ça ne va pas être comme des orties où on va avoir tout un coin d'ortie très, très important. Là, ça pousse par petites touffes. Et on va avoir une touffe là, on va avoir une autre touffe 3 mètres plus loin, voilà. Donc ça c'est le gaillet vrai, Gallium verum, le nom scientifique, ou caillelet. Il y a un autre gaillet qui est un cousin qui est très très semblable, sauf que les fleurs sont blanches. Mais autrement, c'est la même, toujours cette odeur. Celui-là, il est beaucoup plus courant dans nos régions que on le trouve en grosse touffe par ici. Le caille, le jaune, le gaillet vrai, il est plus clairsemé. On n'en trouve pas des grosses quantités comme le gaillet blanc, dont le nom c'est le molugine, le gaillet molugine. Et les deux sont des plantes, elles ont à peu près les mêmes propriétés et très, très diurétiques pour éliminer l'excès d'eau qui peuvent aller, par exemple, avec quand des gens se font faire des drainages lymphatiques, on peut faire en même temps des cures de gaillet, ça va permettre d'éliminer l'excès d'eau qu'on peut avoir en nous, qui s'accumule, qui vont donner de la cellulite, qui vont donner des choses comme ça. Donc, ces deux gaillets-là sont très, très, très intéressants pour ça. La troisième espèce de rubiacée qu'on a par chez nous, il y en a beaucoup de rubiacées, mais il y en a beaucoup qui poussent sous des climats tropicaux qu'on n'a pas chez nous. Nous, on n'en a pas tant d'espèces que ça. Il y a la garance, donc. Alors la garance, c'est toujours ces plantes-là. Donc, je rappelle, la famille des rubiacées, donc c'est une tige verticale. Et puis des petites feuilles en verticille, c'est-à-dire qui font tout le tour de la tige. C'est une seule feuille, mais découpée en folioles, et qui font tout le tour de la tige, au même niveau.
À la même hauteur.
Et donc la garance est comme ça aussi. Alors elle aurait tendance à grimper un peu, comme le gaillet gratron, mais pas autant, à être un petit peu collante, mais pas autant que le gaillet gratron. Et cette plante, dans le temps, on en faisait une teinture. C'est une teinture rouge, c'est les racines qu'on utilise, et c'est avec ça qu'étaient teints les vêtements militaires de Napoléon.
Dingue.
Ils étaient en bleu et rouge, je crois, à me rappeler, et le rouge, c'était avec la garance. Donc, c'est une teinture végétale. En fait, toutes les racines de ces rubiacées vont donner une teinture rouge. mais c'est la garance qui est la plus qui donne le plus, si on veut. Mais on peut utiliser n'importe quel gaillet pour avoir cette teinture. Alors après, je ne suis pas du
gaillet
tout...
ou rubiacé, la famille ou la variété qui donne une teinte rouge.
Ben, tous les rubiacés qu'on a chez nous, ce sont des gaillets.
D'accord, ok.
Ce sont des gaillets.
Oui.
Hein,
ah oui, d'accord, ok.
C'est gallium, le nom scientifique. Après, il y a gallium verum, gallium mollugine, gallium... Il y a différents galliums, gallium odorata pour la spirule odorante, mais ce sont tous des gaillets. Mm-hmm. Donc, et tous, ils ont quand même des racines qui vont... teindre en rouge. Alors après, moi, je ne suis pas du tout spécialiste des plantes tinctoriales. Je n'ai jamais fait de teinture végétale. Donc, il y a toute une technique pour fixer la couleur aussi, parce que la plante est... faut fixer cette couleur, parce que je vois en Afrique, par exemple, chez les Dogons, ils teignent leurs vêtements avec de l'indigo. Donc, ça donne cette couleur bleu foncé, mais quand on les lave, l'eau, elle est violette. Mais ça tient quand même. On se demande, ça sort la teinture, mais les vêtements restent quand même de la couleur de départ, de la couleur d'origine. Donc il y a toute une technique comme pour le tannage des cuirs. Il y a différents ingrédients qu'on doit utiliser. Donc ça, je suis pas du tout spécialiste. Donc faudrait faire venir un jour quelqu'un spécialiste des plantes tinctoriales, donc les plantes qui servent à faire des teintures. Mais il y en a beaucoup, hein, puisque d'avant, les peintures étaient faites avec des pigments naturels, des ocres, donc des roches.
De l'argile.
De l'argile, c'est intéressant. Faut aller visiter dans le Luberon. Il y a les carrières d'ocre et il y a le village de comment ça s'appelle dans le... Ah, je ne me rappelle plus le nom de ce village où tous les enduits des maisons, il y en a de toutes les couleurs avec tous les ocres qui ont été extraits des carrières à côté. Donc tout ça, c'est tout un tas de choses qu'on savait faire dans les temps anciens où on n'avait pas tous les produits synthétiques en fait qu'on a maintenant et on savait tirer de la nature beaucoup de choses qui avaient en plus l'intérêt de ne pas polluer. Donc voilà pour cette famille des rubiacées. Je voudrais, si on a encore 2-3 minutes...
Alors 2-3, non, mais on peut s'accorder un petit peu de temps pour faire une petite synthèse. Ce qu'on a à retenir aujourd'hui et appris, c'est que la palette de gaillet, on peut s'en servir de teinture naturelle et ça se passe dans la racine.
Et on peut l'utiliser donc dans la cuisine, disons au niveau du lait, on peut l'utiliser pour se soigner, donc ça a des propriétés médicinales.
Ce qui veut dire que c'est une propriété supplémentaire, la plante est soit médicinale, soit comestible, soit bio-indicatrice, et elle peut servir de teinture aujourd'hui. Voilà, on rajoute...
Voilà.
Et on en oublie très certainement, mais d'accord.
Voilà, et simplement en 30 secondes, je dirais, vous avez actuellement qui pousse dans la nature avec le printemps, qui commencent à fleurir, même des pissenlits, et les jeunes pousses de pissenlit, c'est très bon en salade, c'est très dépuratif. Oui. Vous avez des coquelicots aussi qui sont en train de pousser. Le coquelicot, c'est très bon en salade, les jeunes feuilles de coquelicot. Vous pouvez faire des salades mélangées de pissenlit, coquelicot, de la doucette, de la mâche sauvage aussi qui pousse. Donc tout un tas de choses que vous pouvez ramasser dans votre jardin. Bon, si vous le ramassez dans la nature, il faut faire attention. l'administration quand même où vous ramassez. Oui. Et donc, voilà, c'est aussi ce petit côté plante comestible.
Comestible. Est-ce qu'on fait une bonne sieste après une salade de pétales de coquelicot ou pas? Ça a des propriétés un peu apaisantes.
Mais c'est pas les pétales qu'on consomme en salade, ce sont les feuilles.
Les feuilles, pardon. Les feuilles.
Ouais. Donc les pétales sont somnifères, pas les feuilles. Non.
Ah d'accord. Très bien. Bon, on aura appris plein de choses une nouvelle fois aujourd'hui. Des hommes, des plantes et de la biodynamie, l'intervention bimensuelle de Didier Vallet sur notre antenne, grand spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, sommité fleurie de la biodynamie. Le jardin de Jam, c'est tout fléché, c'est là où vous développez l'activité à proximité de Villefranche-de-Rouergue sur la commune de Villeneuve-d'Aveyron. Voilà. Merci Didier. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour la suite, peut-être une nouvelle famille, peut-être encore autre chose, peut-être un retour à la biodynamie, aux préparations biodynamiques. Voilà,
ça va être le moment de les sortir de terre bientôt. Alors.
Ah, et ben on va se laisser surprendre dans 15 jours. Merci Didier.
Au revoir David.
CFM Villefranche, le mag.